L'émission d'aujourd'hui vous est présentée par les pubs, l'Église protestante unie de Belgique, et avec nous, le pasteur Bruno Jousselin. Bonjour Bruno.
Bonjour.
Vous êtes pasteur de l'église du musée à Bruxelles, vous travaillez aussi pour la PRT, et aujourd'hui avec vous, on va essayer de mieux cerner le protestantisme, son origine, sa dynamique actuelle et ses valeurs. Et pour commencer, une question que je me pose depuis très longtemps, pourquoi est-ce qu'on dit protestant ?
Alors, on dit protestant parce que, comment dire, protester, ça veut dire attester devant. Ça ne veut pas dire forcément râler. Les protestants ne sont pas des râleurs ou des manifestants qui vont protester dans la rue. Ce sont des gens qui attestent devant. Et donc, on a dit protestant à partir du moment où quelqu'un comme Martin Luther a été convoqué à la diète de Worms, par exemple, ou la diète d'Augsbourg, et il a attesté de sa foi devant l'empereur, devant les autorités. Donc il a protesté. Voilà, d'où l'origine de protestant, ça veut dire attester devant, c'est celui qui va attester devant les autres sa foi, ses convictions. Donc il peut y avoir beaucoup de protestants, hein. Quelqu'un qui affirme sa volonté, son désir en face de quelqu'un d'autre, il est un protestant.
Martin Luther, c'est vraiment le père du protestantisme ?
C'est celui qui est à l'origine du protestantisme, puisque c'est le premier de ce qu'on appelle les réformateurs, début du XVIe siècle, 1517, c'est 95 thèses, en Belgique, 95 thèses, où il affirme un certain nombre de choses contre le trafic des indulgences qui était mis en place par l'Église catholique. Alors, les indulgences, c'était ce qui permettait de donner de l'argent pour son salut. En soi, ça l'a pas trop choqué au départ. Les indulgences, pourquoi pas, après tout, en signe de repentance, de donner de l'argent, pourquoi pas. C'est comme ça qu'un certain nombre de seigneurs ont construit des hôpitaux. Les hospices de Beaune ont été construits par le duc de Bourgogne. Après toutes les guerres, il s'est repenti de toutes les mauvaises actions qu'il a pu faire pendant les guerres. Et il a fait les hospices de Beaune, ce qui a permis de sauver beaucoup de gens et de soigner des personnes pauvres. Donc en soi, c'est pas mauvais. Mais à partir du moment où il a fallu payer pour les gens qui étaient morts, c'est là où ça va plus. C'est là où Martin Luther s'est dit « Non, on peut pas payer pour les gens défunts. La foi est une démarche personnelle. C'est pas, je peux pas acheter le salut de quelqu'un d'autre. C'est chacun son propre salut, chacun sa démarche de foi. » Et c'est là où il a protesté, il a râlé. Là, on va prendre les deux étymologies. Et il a dit « C'est pas possible ». Et il a publié ses 95 thèses. Ça a été, on marque ça comme étant le début de la réforme. Mais ce qu'il faut dire, c'est que Luther n'a jamais voulu quitter l'Église catholique. Il a voulu c'est le même principe même de la réforme, réformer l'Église de l'intérieur. Il était catholique romain et il a toujours voulu le rester. Simplement, il s'est fait mettre à la porte. Là, à partir du moment où il était mis à la porte, il a constaté la rupture.
C'est ça. Dans sa démarche, au départ, il y avait un certain respect et c'est après qu'il a été forcé à se séparer finalement.
Tout à fait. Il était dans une démarche, dans une volonté de réforme de l'intérieur en disant dans l'institution catholique, il y a des choses qui ne vont pas, il faut les réformer parce que l'Église n'est plus en conformité avec l'Écriture. Et ça a été tout le débat dans les diètes, dans les convocations qu'il a eues au Parlement, des négociations qu'il a eues avec les autorités, des représentants de la papauté, des représentants de Rome, de la hiérarchie de sa propre Église à lui, hein. Le débat, ça a été, lui disait, l'Église n'est pas conforme à l'Écriture, donc il faut la réformer, il faut que l'Église se soumette à l'Écriture, et en face, il y avait une position qui disait, soumettez-vous à l'autorité, et après nous discuterons. Et Luther disait, mais non, moi je me soumets à l'Écriture, et après on discute.
Ça, la parole, c'est vraiment quelque chose, la parole, l'Écriture, la Bible, les Évangiles, c'est quelque chose qui est vraiment central dans la foi protestante aujourd'hui.
C'est quelque chose de tout à fait central, qui reste aujourd'hui très central. C'est vraiment le fondement. Il y a l'Écriture, c'est à partir de la lecture de l'Écriture qu'on va pouvoir interpréter les événements de la vie et se guider. Donc, on disait dans le temps qu'un protestant, c'était un homme ou une femme seul face à Dieu, la Bible à la main. Donc ça, c'est ça, la Bible à la main, c'était ça la grande image. Et en France, par exemple, au moment des guerres de religion, sous Louis XIV, quand les soldats du roi entraient dans une maison, pour savoir si c'est une maison protestante ou pas, en région de Drôme-Ardèche, il y avait souvent une pierre dans les murs qu'on pouvait enlever, derrière il y avait une Bible. On cachait les Bibles Mais c'était typique des maisons protestantes. Quand on va dans des vieilles fermes de cette région de Drôme-Ardèche aujourd'hui, souvent à côté de la cheminée, il y a une pierre qu'on peut déceler et dedans il y a une petite cache. C'est là où on mettait la Bible, parce que c'était le signe des protestants.
RCF.
Alors maintenant, les catholiques ont appris à lire la Bible et en ont aussi chez eux. Vous parlez aussi de cette idée d'être seul face à Dieu, et tout à l'heure vous avez parlé de cette idée d'être responsable de soi et pas des défunts, par exemple. La responsabilité, c'est aussi une valeur du protestantisme?
C'est une des valeurs du protestantisme. Alors seul face à Dieu, ça c'est un peu une caricature, parce que à un moment on disait des protestants qui pouvaient se passer de l'Église. Puisque dans la grande phrase, slogan de l'Église catholique, c'est « hors de l'Église, point de salut ». Alors, il faudrait bien sûr nuancer tout ça. Et le protestant, étant hors de l'Église, catholique romaine, du coup, il était seul face à Dieu. Mais c'est aussi l'idée qu'il n'y a pas d'intermédiaire entre le croyant et Dieu. Quand le protestant va prier, il va prier Dieu le Père au nom du Fils, dans l'inspiration du Saint-Esprit, soyons trinitaires, comme ça on est dans la bonne théologie, mais il passe pas par l'intermédiaire des saints. Je vais pas prier Saint Bidule qui ira voir Saint Truc, qui ira voir Saint Chose, pour aller voir Marie, qui ira voir Jésus, qui ira voir Dieu le Père. Sinon c'est comme le téléphone arabe, ma demande elle va pas arriver au bout, ou elle sera pas conforme. Je plaisante, mais c'est un peu ça. C'est la multiplication des intermédiaires entre Dieu et le croyant. Non, le croyant s'adresse directement à Dieu. La prière des psaumes, c'est ça, qui était beaucoup repris dans le protestantisme et comme dans le catholicisme. Mais il n'y a pas d'intermédiaire des saints. Il n'y a pas tous ces niveaux intermédiaires. Et du coup, l'Église n'est plus intermédiaire. Il y a ce niveau-là qui... Alors, c'est caricatural parce que c'est exagéré comme position. Mais ça serait presque ça. C'est pour ça qu'on dit le protestant seul face à Dieu avec sa Bible à la main.
Alors, comment est-ce que le protestantisme considère, ou les protestantismes, considèrent la sainteté et considèrent Marie ?
Il y a quelques années, il y a même un bon nombre d'années, il y a eu le groupe des Dombes, qui est un groupe écuménique qui se réunit en France de théologiens catholiques, protestants, orthodoxes, qui est un groupe indépendant des structures d'église. Donc c'est par cooptation, c'est par recrutement en interne dans les églises, par cooptation qu'ils se recrutent. Et ils ont fait tout un travail sur Marie. Il se trouve qu'à ce moment-là, j'étais pasteur à Lyon et... Comme souvent, un certain nombre de délégués se rencontraient, se retrouvaient à Lyon pour manger ensemble, avant de partir à l'abbaye des Dombes. Et puis après, revenaient, on échangeait un peu, ils venaient, on échangeait un peu, ils repartaient. Donc Lyon était un peu une étape. Et en tant que pasteur protestant de Lyon, j'étais invité en ces rencontres, parce que je travaillais avec les Dominicains, et on se retrouvait assez facilement. Et là, retour des membres du groupe des Dombes de leur session, qui ont expliqué, on a fait un travail sur Marie, et d'abord on s'est donné librement la parole. Chacun a pu dire ce qu'il pensait de Marie, quelle est sa position personnelle, indépendamment des structures d'église, et de la théologie officielle, j'allais dire. Et là, ils ont été très surpris. Beaucoup des théologiens catholiques ont dit que Marie n'avait pas une grande importance pour eux, dans leur piété personnelle, Et beaucoup de protestants trouvaient que Marie était une grande figure de l'église, une grande figure de la foi, qu'elle avait une importance. Je vais dire, ma position personnelle, elle va être là. C'est de dire que Marie est un personnage incontournable dans l'Écriture. Et c'est un exemple de foi. Le plus beau commentaire, un des plus beaux commentaires du Magnificat qui est dans la Bible, du chant de Marie, c'est celui de Martin Luther. Jean-Paul II l'a cité quand il a fait son encyclique sur Marie. Donc voilà, c'est quand même quelqu'un d'important. Luther était très sensible. Il avait une piété mariale, mais simplement il n'allait pas prier Marie. Marie comme étant un exemple de foi, un chemin à suivre pour arriver au Christ et pour arriver donc à Dieu. Mais Marie ne doit pas être l'arbre qui cache la forêt. C'est pas Marie qui est au centre de la foi, c'est Jésus. Il suffit de prendre l'histoire de l'iconographie. À un moment dans l'iconographie ancienne, on n'avait pas les règles de proportion, de perspective. Donc la taille des personnages n'était pas du tout en fonction de leur taille réelle. C'était symbolique. Et au départ, prenez les iconographies les plus anciennes, on a le Christ et Marie est toute petite à côté du Christ. Et puis petit à petit, avec les dogmes ou la sensibilité mariale qui se développe, Marie devient aussi grande que Jésus.
Voire plus grande dans certains cas.
Et à un moment, Marie, reine du ciel, elle devient plus importante. C'est ça que Luther va combattre et c'est ça que les protestants, sur lequel les protestants ne sont pas d'accord. Non, Marie doit rester à sa juste place. Mais comme Abraham est le père des croyants, Marie peut être la mère des croyants quelque part, puisqu'elle est la mère du Christ.
Peut-être une dernière question pour clore cette émission. Vous avez parlé des guerres de religion entre catholiques et protestants, et heureusement, les choses ont bien changé aujourd'hui. Vous avez dit que Jean-Paul II citait Luther. Il arrive aussi que les protestants citent les catholiques. Comment est-ce que le dialogue entre catholiques, protestants, orthodoxes se passe aujourd'hui ?
Après Vatican II, il s'est bien passé. On va dire même très bien passé. Il y a eu beaucoup d'avancées, il y a eu beaucoup de rencontres.
C'est très récent quand même.
C'est très récent. Bon, ça fait quand même une cinquantaine d'années, 60 ans. Donc ça fait quand même un petit moment. Le temps s'accélérant, on peut dire que ça fait quand même... voilà. Mais je crois qu'il y a eu beaucoup, beaucoup d'avancées. Mais parce qu'on a élagué tous les problèmes, on s'est aperçu que toutes les fausses questions, toutes les images, les caricatures qu'il y avait ont pu tomber. Maintenant, on arrive au cœur des problèmes. Là, c'est peut-être un peu plus difficile, mais je ne désespère pas. Je crois que le dialogue, maintenant, on est habitué à dialoguer. C'est ça qui est important. On est habitué. Là, on s'ignorait. Maintenant, on se rencontre. Ça, c'est très important.
Et le baptême protestant et le baptême catholique sont mutuellement reconnus, par exemple ?
Ont toujours été reconnus.
Toujours ?
Sauf exception, mais en principe, oui.
Ok. Et alors, une toute petite dernière question. On dit catholique romain, et l'autre jour, une prédicatrice protestante me disait « Mais nous aussi, nous sommes catholiques. Les protestants sont aussi catholiques pour
alors,
vous ?»
Alors, Luther disait « Je suis catholique évangélique ». Il refusait qu'on utilise son nom pour dire l'église luthérienne, comme si c'était une église de Martin Luther. Non, il disait « Faut dire catholique évangélique ». C'est ce qui est devenu en allemand « Evangelische Kirche », l'église évangélique. Donc je crois qu'il faut que les protestants se réhabituent à ce terme de catholique. Catholique dans le sens de la foi pleine et entière. Nous sommes catholiques, nous avons une foi pleine et entière, comme les catholiques romains, les catholiques de l'épube, on va dire, les catholiques, je sais pas, voilà. Mais c'est important, cette notion de catholicité, c'est pas une attache particulière, mais c'est une plénitude de la foi.
Et on va terminer sur ces très belles paroles. Merci beaucoup Bruno Jousselin. Et bonne semaine à tous et à toutes.